Le journal Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous. Une révolution dans la lutte contre le cancer. Le congrès mondial de Chicago célèbre les CAR T-cells. On modifie génétiquement les cellules immunitaires d'un malade avant de lui réinjecter. Cela coûte encore très cher, mais ça marche. Un mur de taxes contre l'immigration clandestine. Donald Trump va surtaxer les importations venues du Mexique. Il veut obliger son voisin à en faire plus contre l'immigration illégale. C'est à suivre. Le pape François en Roumanie et ça pourrait être tendu avec les orthodoxes, les 10 ans du RSA et des matchs de football où il est interdit de courir. Sommes-nous devenus des poissons rouges scotchés à nos écrans comme des poissons dans leur bocal, Nicolas? Vous en parlez avec votre invité à 8h20 dans le Grand Entretien.
Oui, il s'agit de Bruno Patino. Il publie La civilisation du poisson rouge, sous-titre Petit traité sur le marché de l'attention. C'est chez Grasset. Alors, si vous êtes totalement addict aux réseaux sociaux, appelez-nous au téléphone 01 45 24 7000 ou allez-y sur vos réseaux préférés et l'application mobile de France Inter.
Allez, rassurez-vous, on lit encore. Nous poursuivons notre découverte des auteurs en lice pour le prix du livre Inter ce matin. Philippe Vasset.
France Inter.
Le congrès mondial du cancer s'ouvre aujourd'hui à Chicago. C'est le plus grand du genre avec des chercheurs, des médecins, des journalistes spécialisés. L'occasion ce matin de vous reparler d'un nouveau traitement, les CAR T-cells. L'année dernière, à cette époque, on évoquait cette thérapie prometteuse. Eh bien aujourd'hui, on sait que ça marche. La thérapie consiste à prélever les propres cellules immunitaires du patient, à les transformer génétiquement, puis à les réinjecter. À l'hôpital Saint-Louis à Paris, on a enregistré de très bons résultats pour les cancers du sang. Véronique Julia.
À l'hôpital Saint-Louis, en moins d'un an, une cinquantaine de patients ont été traités avec cette technique des CAR T-cells pour des lymphomes, autrement appelé cancer des ganglions. Ces patients étaient en impasse thérapeutique, en récidive après échec des traitements standards. Pour l'instant, les médecins se gardent de triompher, mais les résultats sont encourageants. Près de la moitié des patients ont une rémission complète au bout de quelques mois avec ce nouveau protocole qui consiste à armer génétiquement les cellules immunitaires du malade pour en faire des tueuses de cancer. Le professeur Catherine Thieblemont est chef de service d'hémato-oncologie à l'hôpital Saint-Louis.
Donc on prend les cellules par une prise de sang, on les envoie dans une plateforme pour qu'elles soient génétiquement modifiées pour aller attaquer le cancer. Et ensuite elles vont être réinjectées et ces cellules vont être efficaces de façon immédiate.
Nadine, 64 ans, a été parmi les premières à Saint-Louis à bénéficier de ce traitement pour un lymphome. C'était à l'automne dernier, sa dernière chance après 4 ans de lutte et 2 récidives. Plus de 6 mois plus tard, elle est en pleine forme.
Un mois après, les résultats étaient déjà bons. 3 mois après, j'avais pratiquement plus rien et 6 mois après, je vis tout à fait normalement. C'est un miracle, c'est une deuxième vie.
Une seule injection suffit, mais le patient doit rester au moins 10 jours ensuite à l'hôpital car les effets secondaires peuvent être assez violents. On les contrôle heureusement de mieux en mieux. Autre défi, fabriquer les cellules modifiées plus vite car les délais restent aujourd'hui assez longs, jusqu'à 2 mois quand les patients en ont souvent besoin, en toute urgence.
Oui, à noter le coût de ce traitement, 350 000 euros pour une injection. Avec les CAR T-cells, on le voit, les États-Unis sont à la pointe dans la recherche médicale, mais dans ce même pays, le nombre de malades de la rougeole est au plus haut depuis 25 ans, notamment à cause du recul de la vaccination. Et puis, après Netflix et Disney, Warner menace de ne plus tourner dans l'État de Géorgie s'il adoptait une nouvelle loi limitant considérablement l'IVG. C'est une tendance lourde. Là-bas, à partir de demain, la dernière clinique pratiquant des avortements au Missouri pourrait être fermée.
8h04, les États-Unis où Donald Trump s'en prend au Mexique.
C'est l'annonce de la nuit. Le président américain va augmenter les tarifs douaniers sur tous les produits mexicains importés. C'est une façon de faire pression sur son voisin pour qu'il lutte contre les migrations clandestines. Grégory Phillips.
Si la Maison-Blanche applique bien la menace de Trump, à partir du 10 juin prochain, tous les produits en provenance du Mexique seront taxés à 5%, puis 5% de plus le mois suivant, et encore le mois d'après, jusqu'à atteindre 25% au 1er octobre. Chaque année, les États-Unis importent du Mexique environ 350 milliards de dollars de biens, des produits agricoles, des voitures, des instruments médicaux, etc., qui seront donc soumis à ces nouveaux tarifs. En enclenchant ce bras de fer commercial, Donald Trump veut faire pression sur les autorités autorités mexicaines afin qu'elles luttent plus efficacement contre l'immigration clandestine. Mais la stratégie est risquée car elle peut torpiller l'accord commercial que Trump a pourtant lui-même conclu avec le Mexique et le Canada. Autre conséquence, tous les produits arrivant du Mexique aux États-Unis seront immédiatement plus chers. Mauvaise nouvelle pour le consommateur américain. Mais avec ces menaces, Donald Trump sait aussi qu'il replace l'immigration clandestine au cœur de son programme à 18 mois de la présidentielle. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et le président mexicain a presque immédiatement répondu à Donald Trump. « Je ne veux pas la confrontation, je propose d'approfondir le dialogue », déclare Andrés Manuel López Obrador. Hier, un groupe de 1036 clandestins a été interpellé après être entré aux États-Unis. Et puis, selon Reuters, les États-Unis vont aussi mettre fin aux taxes préférentielles commerciales accordées à l'Inde. Le roi d'Arabie Saoudite, Salman, se lâche contre l'Iran. Sommet des pays du Golfe et de la Ligue arabe hier à la Mecque. Le souverain dénonce les actions criminel de l'Iran. Il appelle les autres pays du monde à user de tous les moyens pour dissuader Téhéran d'avoir l'arme nucléaire.
8h06, le procureur de Paris revient sur 7 mois de mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale.
Rémi Heitz, nommé début novembre 2018, juste avant le début du mouvement des Gilets jaunes, est interviewé ce matin dans Le Parisien. Bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
Des policiers seront jugés, déclare le magistrat, mais dans un souci d'équilibre. Il rappelle qu'à Paris, le mouvement des Gilets jaunes a considérablement mobiliser ses services.
2900 gardes à vue à Paris depuis le début de la mobilisation le 17 novembre. Dans un peu moins de la moitié des cas, les dossiers ont été classés sans suite. Pour le reste, 515 manifestants ont été jugés en comparution immédiate. Les autres ont par exemple été convoqués au tribunal à une date ultérieure ou bien ont accepté une procédure de plaidé coupable avec une sanction allégée.
Et Rémi Heitz insiste également, il ne veut en aucun cas minimiser ou éluder la question des violences policières.
Ces derniers mois, beaucoup ont dénoncé le silence assourdissant qui entoure ces violences illégitimes. La différence de traitement entre des gilets jaunes jugés sans attendre alors qu'aucun membre des forces de l'ordre ne fait aujourd'hui l'objet de poursuites. Le procureur de Paris explique que ces enquêtes complexes prennent du temps, qu'il faut visionner des heures de vidéo, recueillir des témoignages, identifier les auteurs. Le parquet est donc en train d'analyser 57 dossiers pour savoir quelle suite y donner. 8 ont d'ores et déjà été confiés à des juges d'instruction. Cela concerne notamment les manifestants frappés dans un Burger King le 1er décembre. Dans tous les cas, la justice passera, promet Rémi Heitz, qui assure que des policiers seront renvoyés devant un tribunal correctionnel d'ici à la fin de l'année.
Et au sujet des violences policières, plusieurs syndicats des forces de l'ordre, notamment Alliance et Force ouvrière, regrettent ce matin cette interview du procureur de Paris. Plusieurs manifestations contre les violences faites aux femmes hier soir à Lille, une centaine de personnes se sont allongées devant la préfecture pour dénoncer les meurtres de femmes. En début de semaine, près de Lille, un homme a séquestré son ex-compagne puis l'a tué au couteau chez lui. Plus tôt dans la journée, rassemblement similaire de Femen au Palais Royal de Paris. En France, une femme est assassinée par son compagnon ou ex-compagnon tous les trois jours. Il y a 10 ans naissait le RSA, ou plutôt il était généralisé. Après 2 ans d'expérimentation, le 1er juin 2009 donc, Martin Hirsch lançait le successeur du RMI en insistant sur le volet insertion et en permettant de conserver une allocation tout en étant salarié à temps partiel ou en CDD. 10 ans après, 1 800 000 foyers touchent le RSA, mais les critiques sont nombreuses, Claire Chaudière.
Il y a les déceptions qui ont existé dès le départ et celles qui sont apparues au fil des années. À son démarrage, plusieurs nouveautés caractérisaient le revenu de solidarité active.
Le RSA s'adresse en priorité aux sans-emploi, mais aussi à ceux qui gagnent moins de 880 euros par mois.
Le RSA Activité devait effectivement faire passer 700 000 travailleurs précaires au-dessus du seuil de pauvreté. Trop complexe, inefficace, ce volet-là a été supprimé, remplacé par la prime d'activité. Autre dimension nouvelle à l'époque, l'accompagnement au retour à l'emploi, se souvient François Soulage du collectif Alerte.
Moi j'avais suivi de très près cette évolution avec Martin Hirsch. Le projet insertion n'a pas été clairement développé. Et donc c'est en cela que c'est une déception.
Sans véritable revalorisation, le RSA est aussi progressivement apparu insuffisant, explique Florent Guéguin à la tête de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité.
550 euros par mois, avec le RSA aujourd'hui, on survit. Le deuxième problème du RSA, c'est qu'il a encore aujourd'hui un nombre très important de personnes qui ont droit et qui ne le demandent pas. C'est près de 30%.
Alors avec le futur revenu universel d'activité, le gouvernement entend certes répondre à quelques-unes de ces ses déceptions, et c'est une bonne chose, mais il risque, s'inquiètent les principaux acteurs associatifs, de créer au passage d'autres difficultés.
C'est une information France Inter pour préparer les élections municipales de l'année prochaine. Un duo présidera la Commission nationale d'investiture de la République en marche. Deux marcheurs, l'ancien ministre socialiste de la Défense Alain Richard et la jeune députée jupéiste Marie Guévenoux. Elles ne sont pas si nombreuses, les femmes chefs de gouvernement en Europe. Eh bien, en Autriche, après l'explosion de la coalition droite-extrême-droite, une femme est nommée chancelière par intérim, Brigitte Bierlein. Elle était jusqu'ici chef de la Cour constitutionnelle et expédiera les affaires courantes jusqu'aux législatives au mois de septembre. À Budapest, en Hongrie, le naufrage d'un bateau de croisière a fait 7 morts et 21 disparus. Il y a peu d'espoir de les retrouver. Le capitaine du bateau a été placé en détention provisoire pour imprudence. Son navire a coulé en quelques secondes, quelques minutes. Les victimes des touristes sud-coréens ont été retrouvées sans gilet de sauvetage. Le pape François part en Roumanie, départ pour Bucarest ce matin. Jusqu'à dimanche, François rencontrera bien sûr des catholiques, mais aussi des Rome et surtout des orthodoxes ultra majoritaires dans le pays. Mathilde Imberti, ces rencontres pourraient bien ressembler à un face-à-face entre chrétiens.
Après la Bulgarie en début de mois et l'accueil glacial que la hiérarchie orthodoxe lui avait réservé là-bas, nouveau défi pour le pape François. Entrer en dialogue avec l'église roumaine orthodoxe ultra-majoritaire, une église que le prêtre français Michel Kubler connaît bien. Il a fondé en Roumanie une maison pour le dialogue entre catholiques et orthodoxes.
Ce sera un accueil relativement réservé. Ça paraîtra peut-être étonnant, mais c'est pas sûr qu'ils arrivent à prier ensemble, catholiques et orthodoxes. Depuis 2008, c'est interdit par l'église orthodoxe de prier avec les catholiques ou avec des protestants. Donc il y a un espèce de gel œcuménique qui est assez pénible. C'est une de mes attentes par rapport à ce voyage, que ça puisse dégeler un petit peu les relations entre catholiques et orthodoxes. Vous savez, l'église orthodoxe est puissante chez elle, mais se sent faible à l'extérieur. Et quand arrive le chef d'une grande confession religieuse comme le catholicisme avec 1,3 milliard de fidèles, ça fait peur.
Le patriarche roumain Daniel se présentera publiquement avec le pape à une seule occasion, cet après-midi lorsque le pape ira prier dans la plus grande cathédrale orthodoxe au monde, celle de Bucarest, tout juste inauguré. Son périple roumain amènera le pape également auprès de la minorité rome dimanche et bien sûr auprès des catholiques. Il va béatifier 7 évêques torturés sous le régime communiste. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
8h12, quand un lieu exerce un pouvoir étrange sur un individu.
C'est le principe d'une vie en l'air de Philippe Vasset, publié chez Fayard en lice pour le Livre Inter, dont le jury se réunit le dimanche 9 juin, ici à la Maison de la Radio. Comme tous les jours, à 8h, à 13h et sur franceinter.fr, nous entendons les auteurs en compétition, et donc aujourd'hui Philippe Vasset. Il nous raconte comment un édifice, un bâtiment, voire une friche industrielle peut nous influencer. Il répond à Eva Bétan.
C'est un récit de possession. Comment un lieu très singulier, sans usage en fait, a régné sur ma vie pendant 35 ans. Et comment le livre essaie à la fois de me libérer de cette possession, ou tout du moins d'en comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui me fait monter sur ce monument ? Comment ça se fait qu'il barre ma vie, en fait? C'est pour ça que le livre s'appelle « Une vie en l'air ». J'essaye de comprendre les ressorts de quelque chose qui a gouverné ma vie pendant 35 ans et qui m'a fait écrire.
Et il faut dire, quel est ce monument?
Le site en question, c'est un rail de béton en pleine Beauce, donc au-dessus des champs de blé, qui s'étend sur 20 km et qui est à peu près à 10 mètres de hauteur, et qui a été le site d'expérimentation d'un projet futuriste mort-né qui était un aérotrain sur coussin d'air qui devait en fait remodeler la France. Donc c'était une utopie technique qui s'est arrêtée très vite et le rail est resté. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est une ruine du futur, d'un futur qui n'a jamais été.
Allez, l'activité physique après la culture avec la première Coupe du Monde de Walking Foot. Ça se passe à Londres, c'est pour nous Nicolas.
Oui.
Les règles sont les mêmes que pour n'importe quel match de football, à une exception, c'est interdit de courir.
Ah bien.
Voilà, on joue en marchant et ça tombe bien parce que souvent les joueurs de Walking Foot ont entre 60 et 70 ans, ça c'est pas comme nous. Exemple à Marseille, avec cette équipe de joueurs qui partent à la Coupe du Monde ce matin. Ils s'entraînent toute l'année au stade Sainte-Élisabeth. Ils s'entraînent sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Tony Cellier.
Bien sûr, ils marchent, mais surtout, ils ne s'arrêtent jamais. Du mouvement, toujours, et des passes millimétrées. Jean-Luc Carbussia a 66 ans.
On peut essouffler parce qu'on bouge beaucoup pour proposer un angle.
Des solutions
pour qu'ils puissent faire une passe. C'est vraiment un sport où on travaille le foncier, l'idéal pour les seniors.
Alors, ils jouent sur un petit terrain, à 5 contre 5. À Londres, les buts seront un peu plus petit que ceux utilisés au handball et il y aura un gardien.
C'est le
celui qui se fait chambrer maintenant, c'est Pierre Crescioni. Il se plaint d'une élongation à la cuisse.
Je suis le meilleur joueur.
Pierre a 60 ans.
Je ne fais pas, c'est dégoûté.
Deux ans qu'il joue au walking foot.
On a tous de l'arthrose. On arrive à ressentir des choses que quand on avait 10 ans, quoi. J'ai mal de partout. J'ai peur. J'ai des émotions qui étaient enfouies dans nous et que ça ressort, quoi.
Et tout juste sorti du terrain, Henri Frondi, 72 ans. C'est le doyen de cette équipe de France.
Il y a certains qui n'ont jamais joué dans leur vie. Ils ont des petits-enfants qui disent « Papy, c'est vrai ce que j'entends, tu vas faire à la Coupe du Monde ?» C'est incroyable. On est bénis des dieux.
Voilà, la motivation est là et en plus, ils ont même un parrain, l'humoriste Patrick Bosso.
Moi j'ai confiance parce qu'il n'y a que des anciens internationaux d'Andoum, du premier canton, des anciens internationaux de Saint-Barnabé. Et je pense que ça peut faire mal.
Le reportage de Tony Cillier de France Bleu Provence, hein, ça s'entend.
Élever des vaches, Frédéric, excusez-moi, j'y arrive même pas. En plein océan Atlantique.
Voilà, l'île d'Ouessant veut relancer son agriculture. L'année dernière, un maraîcher bio est venu s'installer. Et bien aujourd'hui, l'île attend un éleveur ou une éleveuse de bovins pour fournir les habitants en produits laitiers. Les candidats ne sont pas si nombreux, nous raconte Denis Paluel, le maire d'Ouessant.
L'île fait 1500 hectares et autrefois tout était absolument cultivé, de l'orge, des céréales et beaucoup d'élevage. Et aujourd'hui, à part les quelques dizaines de familles qui ont encore des moutons, il n'y avait plus rien, donc la friche a repris. L'objectif pour nous avec l'élevage, c'est de retrouver voilà une île avec de la vie quelque part. On n'est pas dans le rêve, c'est pas venez vous installer et puis tout ira bien. Après, la réalité est quand même plus difficile. Un agriculteur à Ouessant, il a un tracteur en panne, il lui manque une pièce, il l'aura pas dans l'heure qui suit. C'est plein de choses comme ça dont il faut bien avoir conscience. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment quelqu'un qui puisse apporter de la valeur ajoutée et transformer tout sur place. C'est vraiment un objectif de développement du territoire. C'est pas de dire on va faire du lait d'Ouessant et on va l'exporter pour vendre la marque d'Ouessant. C'est de réimplanter quelqu'un et puis de nourrir la population sur place et de reconquérir nos paysages.
Le maire d'Ouessant, joint par Yann Gallic, l'heureux élu, sera connu d'ici septembre prochain.
Merci Frédéric Mettezo.